Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise, la Somme. Et sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, parce que vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite. N'hésitez pas, bien évidemment, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre pour cette émission. Nous allons parler de souris mutantes qu'on a envoyées dans l'espace. On va parler de l'une des conséquences de la crise du coronavirus, c'est le télétravail. Il y a eu plusieurs études sur le télétravail pour comprendre un petit peu l'impact que cela pouvait avoir. On va se demander si la coloration des cheveux augmente le risque de cancer. Déjà, rien que le titre est assez effrayant. Nous allons également essayer de comprendre pourquoi il serait possible de détecter le diabète de type 2 avec une simple poignée de main. Et puis, on va aussi parler des sujets que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière, à savoir une bactérie terrienne qui pourrait contaminer la planète Mars. Une preuve encore du réchauffement climatique. Plein de sujets scientifiques, technologiques que nous allons développer dans cette émission d'une heure. Je m'appelle Jean-Noël et je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission Biotine du samedi 19 septembre. Si on fait un point sur l'éphéméride, on apprend que le 19 septembre 1852, Annibal de Gasparis découvre Massalia. Alors Massalia, c'est un astéroïde de taille et de luminosité importante de la ceinture principale d'astéroïdes. Nous sommes en 1852 quand même. Il y avait quand même pas mal déjà de découvertes à l'époque. Plus près de nous, 1940, la mission TISAR révèle aux Américains le potentiel du magnétron à cavité pour le radar en 1940. On travaillait déjà, on avait pas mal d'avancées technologiques dans ce domaine-là au niveau des radars. Et le 19 septembre 1991, vous vous en souvenez peut-être, c'était la découverte de l'homme des glaces. Il s'appelait Ötzi. C'était un peu l'Hibernatus à l'époque. Il y a déjà 29 ans qu'on l'a découvert. Et en fait, les médias ont colporté la légende d'une prétendue malédiction d'Ötzi. C'est un petit peu en référence à la malédiction de Toutankhamon, parce que sept personnes qui étaient liées de près ou de loin par rapport à la découverte d'Ötzi sont mortes depuis. Le touriste allemand Helmut Simon, il a découvert la momie, il meurt à 67 ans lors d'une randonnée, c'était en 2004. Dieter Wagner, qui est le guide de haute montagne, qui est parti à la recherche d'Helmut Simon, il meurt lui d'une crise cardiaque à l'âge de 45 ans. L'archéologue Konrad Spindler, qui a été le premier à examiner la momie, il meurt à 65 ans d'une sclérose en plaques. Il avait dit, selon le quotidien britannique The Guardian, il avait dit que, en plaisantant, je serai sûrement la prochaine victime. Au moins, il a été prémonitoire, effectivement, ça a été le cas. Le chef de la mission scientifique consacrée à Ötzi, Rainer Henn, il meurt à 64 ans dans un accident de voiture et en fait, il allait donner une conférence sur le sujet, il meurt en route. Le guide de montagne Kurt Fritz, qui a emmené le journaliste Rainer Hosel auprès de la momie, lui, il meurt à 52 ans dans une avalanche. Le journaliste en question, lui, il meurt à 47 ans d'une tumeur au cerveau. Et enfin, le spécialiste en chimie moléculaire, Tom Loy, 63 ans, il est découvert mort en 2005 à son domicile de Brisbane en Australie. Et l'archéologue souffrait d'une infection du sang depuis une douzaine d'années. Sa maladie avait été diagnostiquée peu après que son chemin a croisé celui de cette fameuse momie congelée Ötzi. Il avait même terminé un livre consacré justement à Ötzi, il est mort également. Donc voilà, une espèce de malédiction, et puis vous savez très bien, ça marche beaucoup aussi dans les médias, qui est lié à Ötzi. Découverte de cet homme des glaces, c'était le 19 septembre 1991, il y a déjà 29 ans. Au niveau des naissances, eh bien, on peut célébrer la naissance le 19 septembre 1749. Nous sommes au 18e siècle de Jean-Baptiste Delambre. Il est né à Amiens, donc c'est un Picard, c'est un astronome, un mathématicien français. Il a été directeur de l'Observatoire de Paris et il a participé à la mesure précise de la longueur du méridien terrestre qui est à la base de la définition du maître Jean-Baptiste Delambre. Au niveau des décès, celui de Gaspard Gustave de Coriolis, mathématicien ingénieur français qui est mort le 19 septembre 1843. Alors Coriolis, c'est un nom que certains connaissent peut-être parce qu'il a donné son nom à l'accélération de Coriolis, la force de Coriolis. En fait, c'est ce qui affecte le mouvement des corps dans un espèce de référentiel en rotation. Et donc, du coup, on a conservé le nom, justement, de celui qui avait découvert ce phénomène physique, Coriolis. Oui, c'est effectivement Coriolis, c'est un nom qui reste encore un petit peu connu de notre époque. Par contre, de l'ambre, il y a peut-être une rue qui existe quelque part, mais en tout cas, ce astronome et mathématicien français qui avait été directeur de l'Observatoire de Paris a peut-être été un petit peu moins connu depuis. Ce titre dans Futura Science, d'un article qui parle de souris mutantes bodybuildées qui reviennent de leur séjour dans l'espace. Oh là là, déjà, quand on voit un titre comme ça, on se demande qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'on se pose la question entre le rapport qu'il peut y avoir entre des souris mutantes, le bodybuilding, et la vie à bord de la Station Spatiale Internationale. Eh bien, la réponse pour ce rapport entre ces trois choses se trouve dans une nouvelle étude qui est parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. En fait, en décembre dernier, il y a 40 souris femelles qui quittaient la Terre à bord d'un vaisseau SpaceX et leur destination, c'était la Station Spatiale Internationale. Et leur mission à ces souris, c'était de participer à l'étude des conséquences de la vie en micro-pesanteur sur la masse musculaire et osseuse. Et pour essayer d'analyser les effets de la vie dans l'espace sur l'organisme, eh bien, ces souris ont été divisées en trois groupes. Un groupe, on va dire un petit peu témoin, contrôle de 24 individus. Un groupe de 8 souris qui ont été modifiées génétiquement sur Terre avant de partir pour essayer d'avoir le double de la masse musculaire par rapport à leurs copines. Et enfin, 8 autres souris femelles modifiées de manière similaire une fois qu'elles étaient arrivées à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc, il y a 3 groupes, je résume. Un groupe témoin, on ne les touche pas. Un autre groupe où on va modifier génétiquement pour faire en sorte qu'elles soient plus musclées et ensuite on les envoie à la Station Spatiale Internationale. Et enfin, un groupe de souris où on va faire la même manipulation, mais une fois qu'elles sont arrivées sur la Station Spatiale Internationale. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on l'a envoyé sur une capsule, elles sont ensuite revenues sur Terre, ces souris, et on s'est rendu compte que les souris qui n'avaient eu aucun traitement, donc ces souris un peu témoins, un peu contrôle, elles avaient quand même perdu jusqu'à 18% de leur masse musculaire et osseuse durant justement leur séjour sur la Station Spatiale Internationale. Les souris qui avaient subi le traitement avant de partir, elles ont maintenu leur masse musculaire. Et enfin, le groupe, lui, qui a été modifié sur la Station Spatiale Internationale, je vais y arriver, était revenu avec des muscles bien plus développés. On s'est rendu compte qu'il y avait un véritable impact. Ce qui est intéressant, en fait, on fait bien sûr ces études sur les souris, c'est pour mieux comprendre l'impact qu'il peut y avoir sur le corps des astronautes. On a constaté qu'il y avait des véritables modifications musculaires, osseuses. On sait très bien que le corps des astronautes, plus il dure longtemps, plus il y a un véritable impact. Et on a voulu essayer d'en savoir plus. En fait, là, on est quand même quelque part au début de l'étape. Il y aura d'autres expérimentations, d'autres essais cliniques qui vont être nécessaires pour comprendre la raison de tout cela. Mais en tout cas, sur ces souris, on a un petit peu confirmé ce qui se passait pour les humains. C'est donc une étude qui démarre, qui va se poursuivre. On essaiera d'en savoir un petit peu plus. Et ça donne des pistes d'exploration aussi dans la lutte contre l'atrophie musculaire que l'on rencontre chez les astronautes. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement. Qu'est-ce qui a un impact sur ces muscles, sur ces squelettes des souris ? Pourquoi ça réagit comme cela? Et puis, évidemment, ensuite, essayer de trouver des parathérapeutiques pour essayer d'endiguer ce phénomène. Mais voilà, des souris mutantes bodybuildées qui reviennent de leur séjour dans l'espace. Il y a donc quelques articles que vous pouvez trouver. Et puis, vous avez également quelques photos de ces souris musclées assez effrayantes, bien sûr. Mais que voulez-vous? C'est pour la bonne cause, c'est pour la science. On écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite, et puis on va continuer à développer comme ça la revue de presse de l'actualité scientifique. On va faire un point sur le télétravail et voir comment ce télétravail va changer à la fois les entreprises, mais aussi même la société. À tout de suite. C'était About Luck, pardon, avec Free Songs sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On fait un peu le point sur l'actualité scientifique et technologique pour essayer de comprendre un petit peu notre monde. Et on va s'intéresser à cette étude qui parle du télétravail. Sans la moindre préparation, il y a près de 5 millions de salariés français qui ont basculé le 17 mars dernier dans le travail à distance. Malgré l'urgence, malgré l'improvisation, eh bien l'expérience semble avoir convaincu les entreprises comme les collaborateurs qui comptent bien faire perdurer ce genre d'organisation. 80% des DRH souhaitent développer cette pratique au sein de leur entreprise de façon pérenne, selon une récente étude, et près de 3/4 des personnes qui ont télétravaillé souhaitent continuer également l'expérience après le confinement de manière régulière ou ponctuelle, d'après donc un sondage Malakoff Humanis. Mais faut pas s'y tromper, cette tendance reflète quand même un changement déjà à l'œuvre auparavant et bien plus profond. Le télétravail n'est pas juste une transposition du travail normal au travail à distance, qu'explique Benoît Serre, qui est le directeur au Boston Consulting Group et qui est vice-président de l'Association nationale des DRH. Cela implique une véritable révolution managériale, dit-il. L'échec du télétravail est souvent dû à un mode de management basé sur le contrôle, c'est ce qu'il déplore. Et avec le télétravail, on ne se demande plus comment on obtient les résultats, mais quels sont les résultats à l'arrivée. Donc, on est dans une logique de confiance, c'est ce qu'il explique. Alors, pour cela, les managers doivent remettre en cause leurs pratiques et accepter aussi de relâcher le contrôle sur les salariés. Ils auront en revanche d'autres missions, comme par exemple stimuler le salarié qui travaille à distance, fixer des objectifs clairs et puis essayer aussi d'entretenir la cohésion de l'équipe. Mais Les bénéfices à en tirer sont tangibles. 64% des DRH s'attendent à une augmentation de la productivité et le télétravail est aussi susceptible de réduire l'absentéisme. Il y a un baromètre qui existe sur l'absentéisme qui paraît tous les ans et qui révèle que 18% des salariés motivent leurs absences au travail par des motifs autre que de santé. Et donc, du coup, on se dit que cet absentéisme peut être résolu, en tout cas une partie, par le télétravail. Je ne crois absolument pas du tout au télétravail, hein, c'est ce que met en garde Benoît Serre. On règle plein de problèmes à la machine à café lorsqu'on discute de façon informelle. Oui, bien sûr, le bureau reste donc nécessaire à la culture d'entreprise, celle qui assure une cohésion entre tous les salariés. Le rôle du bureau s'étend d'ailleurs bien au-delà du travail. Le bureau est le dernier endroit où tout le monde se croise, bien davantage que le quartier ou l'école. Au bureau, on est obligé, entre guillemets, de vivre la diversité, de fréquenter des personnes de tous âges, sexe, religion, conditions sociales, origine géographique. C'est ce qu'explique Véronique Bédag-Amilius, qui est directrice générale déléguée du groupe Nexity. Elle explique qu'avec une généralisation du travail à distance, on passerait aisément d'une logique relationnelle à une logique transactionnelle. Pourquoi, dans ce cas, ne pas construire un réseau de journaliers freelance activables en fonction des besoins ponctuels de l'entreprise ? Effectivement, ça peut être un risque. Alors, pour ne pas donner aux salariés le sentiment que le bureau est inutile, il est donc indispensable de bien répartir les tâches entre ce qui peut être effectué à distance et ce qui nécessite un travail en équipe. Et ainsi, la présence au bureau serait ressentie un peu comme utile et agréable et non pas comme une corvée. Alors le télétravail, ça offre une flexibilité inédite aux employés. Ils expliquent qu'ils ont la liberté d'organiser eux-mêmes leur emploi du temps. 63% des salariés affirment ainsi préférer travailler dans une entreprise où les rythmes de travail sont flexibles. Plus de liberté, ça ne veut pas dire non plus open bar. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Ça peut être aussi un risque, hein, c'est ce que prévient Benoît Serre. Pas question de travailler la nuit ou de traîner toute la journée en pyjama à regarder Netflix, hein, bien sûr. Il faut garder un minimum de cohésion avec, par exemple, des heures réservées aux réunions ou avec des échanges organisés. D'ailleurs, le droit à la déconnexion a récemment été ajouté dans le Code du travail pour éviter justement toute dérive. Alors, pour autant, la question du temps de travail semble de plus en plus surréaliste. Quel sens peuvent encore bien avoir les 35 heures quand on va consulter sa boîte mail à 10h du soir ou qu'on relit un dossier le dimanche après-midi ? Alors là encore, la logique, elle est plutôt de s'appuyer sur le résultat plutôt que sur le temps qu'on a passé pour y parvenir. Et donc le risque, c'est de creuser l'écart entre les salariés qui bénéficient du télétravail et ceux qui sont obligés d'assurer une présence physique de par la nature de leur travail, bien évidemment, c'est ce qu'avertit Benoît Serre. Pour assurer une certaine égalité, en fait, il est un peu indispensable d'améliorer les conditions de travail des salariés qui font du présentiel. Par exemple, leur donner un plus large choix d'horaire, de jours travaillés, ou de réduire les nuisances, comme par exemple le bruit, ce qui peut être un exemple. Autre inégalité que le télétravail risque d'accentuer également, l'inégalité entre les individus qui maîtrisent les nouvelles technologies et ceux qui sont un peu moins à l'aise avec les logiciels, avec les ordinateurs. Et Benoît Serre explique qu'il est certain que les recrutements vont de plus en plus prendre ce critère en compte. Or, l'organisation d'une réunion sur des logiciels type Zoom ou Teams, par exemple, ou des logiciels collaboratifs, eh bien, l'utilisation n'est pas donnée à tout le monde. Le développement des compétences dans ce domaine est de la responsabilité de l'enseignement professionnel, mais aussi de l'entreprise. Or, c'est quand même pas toujours nécessairement le cas. D'autres effets bénéfiques inattendus du télétravail sont à attendre, comme la fin des embouteillages, souhaitons-le, et donc peut-être un impact sur la pollution. La revitalisation des zones rurales, on voit très bien, on assiste très bien à des campagnes de communication de certaines régions de province pour attirer justement des télétravailleurs sur leur territoire. Et nous dit-on aussi peut-être la baisse des cambriolages. Bah oui, quand on est chez soi, au moins on peut essayer d'éviter les cambriolages. Les immenses tours de bureaux sont, elles aussi, un petit peu amenées à disparaître au profit d'espaces plus réduits, réservés aux échanges entre les salariés. En fait, on semble, on a l'impression qu'on assiste à un bouleversement de la société. Et il y a quelques études qui sont en train d'être menées justement pour essayer de comprendre pourquoi on assisterait à cette évolution. Est-ce que le télétravail, qui a été accentué par le confinement, mais dont on nous explique que c'était quand même déjà une tendance qui commençait à se mettre en place, va être bénéfique pour certains et va creuser certaines inégalités. Ça va être assez intéressant à suivre et justement cette relation au travail va être totalement modifiée dans les prochaines années véritablement, avec aussi une modification des relations entre les collègues. Ça va être quelque chose d'assez nouveau et peut-être aussi d'assez précipité, bien évidemment. Et la technologie, elle, en parallèle, elle va trouver des solutions. Par exemple, on apprend qu'il existe des lunettes anti-procrastination, pas facile à dire, anti-procrastination, qui vont surveiller votre productivité. Parce que le développement massif du télétravail, ça offre des inconvénients pour les managers du monde entier qui doivent donc gérer à distance des employés, parfois dissipés. Et donc, il y a une start-up canadienne qui s'appelle Octify qui a développé des lunettes anti-procrastination qui sont censées booster la productivité de celui qui les porte. Et pour contrer la procrastination, eh bien, les chercheurs de cette start-up ont intégré une caméra, un microphone, ainsi que de nombreux petits capteurs dans la monture des lunettes pour être avertis de tout écart d'attention ou de productivité. Donc, les données qui vont être collectées par ces lunettes dont les verres peuvent être adaptés à la vue de tous. Hein, donc, c'est des vraies lunettes. Ça ne va pas modifier votre votre vision. Eh bien, ces données, elles vont être envoyées sur une application dédiée qui aurait été développée par cette start-up. Et donc, on va pouvoir essayer de personnaliser les paramètres et comprendre un petit peu s'il y a une influence sur la productivité. Et donc, si, par exemple, comme des millions d'Américains, vous surfez sur Internet, vous regardez le catalogue de Netflix pendant vos réunions de travail sur Zoom, eh bien l'application pourra vous le notifier immédiatement. Et si votre activité professionnelle vous oblige à consulter des sites ou des applications qui pourraient être jugées distrayantes, eh bien, c'est aussi ces lunettes qui vont pouvoir se rendre compte de cela et qui vont pouvoir vous avertir. Vous voyez que la technologie ne nous oublie pas dans ces cas-là. Il fallait bien sûr s'en douter, bien évidemment. On estime à 210€ cette paire de lunettes qui pourrait être commercialisée apparemment en début d'année prochaine. Ça va être un beau cadeau qu'on va s'offrir pour Noël. Des lunettes qui vont se mettre à sonner quand on aura le malheur de regarder un site qui n'aura aucun lien avec notre activité professionnelle. Et oui, qu'est-ce que vous voulez. Un télétravail, ça peut être libre, mais quand même, il faut pas trop pousser mémé dans les orties. Allez, on écoute Bleak Basis sur l'antenne de Graphite. Oh,
soyon ila mayin ilen le wen ubi pein il gel poron we
Blake Bessu sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique et technologique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Depuis l'émission de la rentrée de la semaine dernière, je vous ai promis de parler de deux articles, cette bactérie terrienne qui pourrait contaminer la planète Mars et cette preuve encore du réchauffement climatique. Je vais en parler tout de suite parce que j'ai l'impression que l'émission passe très vite et que je vais encore être obligé de porter cela. Donc je parle tout de suite de cette bactérie. Nous sommes en 2018, il y a deux ans. Akihiko Yamagishi, qui travaille à l'Institut de l'espace du Japon, a pris l'avion et il a envoyé des ballons dans le ciel pour y traquer la présence d'une bactérie, la bactérie Deinococcus radiodurans. Cette bactérie, c'est une vraie petite star des laboratoires et on l'a surnommée Conan la bactérie. Donc c'est pas Conan le barbare, mais Conan la bactérie. Ça en dit long quand même sur ses capacités de résistance. Elle résiste en fait à peu près tout, tout ce qui tue tous les autres organismes terrestres, mais pas elle, des radiations, au vide, la dessiccation, elle tient le choc, c'est Deinococcus radiodurans, bravo à elle. Comme il s'y attendait, eh bien le chercheur a identifié des traces de cette bactérie jusqu'à 12 km d'altitude. Et ces bactéries-là sont naturellement présentes dans l'atmosphère, mais il y en a qui ont été envoyées bien plus haut par l'homme, jusqu'à la station spatiale internationale à 400 km en orbite. Et donc, dans le cadre d'une expérience qui a débuté en 2015, on a envoyé des colonies de cette bactérie qui ont été placés dans des containers spéciaux à l'extérieur sur des panneaux solaires. Et le but de l'expérience était d'évaluer leur capacité à ces bactéries à survivre dans le vide spatial en étant en plus exposés aux rayons cosmiques. Hein, on ne les ménage pas, les pauvres. Il y a donc eu plusieurs échantillons de différentes épaisseurs qui ont été déposés sur les panneaux solaires pour une durée de 1, 2 ou 3 ans. Et donc l'expérience a pris fin en 2018 et les résultats sont désormais publié dans la revue Frontiers in Microbiology. Les résultats, en fait, ils confirment la haute résistance de cette fameuse bactérie. Parce qu'après 3 ans, les chercheurs ont découvert que tous les agrégats qui étaient supérieurs à 0,5 mm, 0,5 mm, c'est rien, c'est fin, eh bien, on se rend compte que ces agrégats ont partiellement survécu aux conditions spatiales. En fait, les observations que l'on a faites suggèrent que les bactéries qui sont à la surface de ces agrégats sont mortes, mais elles ont essayé de former comme une couche un peu protectrice qui fait que celles qui sont juste en dessous ont pu être protégées, ce qui permet du coup d'assurer la survie de la colonie. Et donc, en utilisant les données de survie de ces différentes colonies, eh bien, on estime qu'une pastille un petit peu plus épaisse que 0,5 mm, ça pourrait survivre entre 15 jusqu'à 45 ans sur la Station Spatiale Internationale. C'est quand même assez fabuleux. Autre conclusion de l'étude, une colonie de 1 mm de diamètre pourrait potentiellement survivre jusqu'à 8 ans dans des conditions similaires à celles d'un trajet spatial, soit largement le temps d'effectuer un voyage vers la planète Mars, aller et retour. C'est un avertissement pour les concepteurs des missions, dont l'un des objectifs principaux est justement d'éviter toute contamination de Mars visitée par des microbes terrestres. Cependant, rien ne prouve que des bactéries pourraient effectivement être transférées sur Mars ou sur la Lune via un vaisseau ou une sonde. Il faudrait qu'elles puissent survivre à des étapes comme par exemple la sortie de l'atmosphère terrestre, le freinage, l'atterrissage sur une autre planète. Mais on se souvient il y a quelques années qu'il y a une étude qui a montré qu'on avait déposé de l'ADN nu, mais vraiment de l'ADN directement, on ne parle pas du tout de bactéries, là on parle directement de l'ADN, on l'a déposé à la surface d'une fusée et on s'est rendu compte que cet ADN pouvait survivre à un lancement et à une rentrée dans l'atmosphère. Donc du coup, ça pose question, ça fournit à ce jour tous ces travaux la meilleure estimation de la survie bactérienne dans l'espace. Il y a plein d'expériences qui ont été réalisées qui avaient montré que des bactéries pouvaient résister au vide, aux radiations qui étaient enfouies dans une météorite, une comète également. Mais l'étude qui est donc parue il y a quelques semaines est la première à démontrer que ces bactéries peuvent survivre sous forme d'agrégats sans le recours d'un genre d'abri que pourrait être une pierre comme une météorite ou une comète. Et des résultats qui étayent aussi une hypothèse, c'est que la vie pourrait se propager dans l'univers via des comètes et des météorites et par conséquent que les êtres vivants sur Terre pourraient avoir une origine extraterrestre. Alors là, on rentre tout de suite dans une hypothèse qui mérite d'être étayée, bien évidemment. Mais en tout cas, ça pose énormément de questions parce qu'on se dit si des bactéries innocentes, entre guillemets, arrivent à survivre dans des conditions totalement extrêmes, qu'a-t-il pu se passer? C'est quelque chose qu'il va falloir essayer d'en savoir un petit peu plus. Peu de scientifiques, quand même, adhèrent à cette théorie, il faut le savoir. Mais en tout cas, ça pose énormément de questions. Il reste envisagé que les principaux constituants des formes de vie que nous connaissons sont arrivés sur Terre depuis l'espace. Mais combien, qui, quand, comment, pourquoi? Ce sont encore les questions, évidemment, que l'on cherche à savoir depuis que l'homme est homme. On cherche à savoir l'origine de tout ça. Mais cette bactérie qui a été découverte en 1956 par un chercheur américain qui voulait stériliser des boîtes de corned beef en les soumettant à un espèce de fort rayonnement gamma, il s'est rendu compte que son traitement n'avait pas eu l'effet qu'il souhaitait parce qu'il y a eu des colonies de cette bactérie qui avaient survécu. Et depuis qu'on a appris que cette bactérie était capable d'encaisser des doses de radiation des centaines de fois plus élevées que des doses mortelles pour l'homme, eh bien on l'a regardé d'un autre œil, même si on l'a aimé dans des bains acides. Elle tient le choc, des ultraviolets, elle tient le choc, elle peut même mourir et ressusciter. Mon Dieu, elle est quand même coriace. Tu m'étonnes qu'on appelle Conan la bactérie. Cette espèce de résistance, tient en grande partie à son génome, qui a la particularité, son ADN, d'être circulaire. C'est-à-dire que lorsqu'il est cassé, eh bien, il peut se reconstituer en quelques heures. Ça pourrait être une piste pour comprendre cette résistance et cette capacité aussi de pouvoir ressusciter. Mais donc cette bactérie terrienne qui pourrait contaminer la planète Mars, on n'y pense pas, mais en tout cas, ça peut avoir des conséquences assez inattendu, bien évidemment. Et c'est un article qui est paru, je crois, au mois d'août, avait fait quand même pas mal parler parce que ces résistances de certaines colonies bactériennes prêtent un petit peu à questionnement. Et puis, on se dit également que si on peut comprendre de façon véritable les raisons de cette résistance, on pourrait bien évidemment essayer de copier cela. Évidemment, vous savez, on sait très bien vers quoi ça peut mener, bien évidemment. Autre chose et autre article que je voulais évoquer lors de l'émission de la semaine dernière, c'est cet article sur la NASA qui a vu le nombre de lacs glaciaires exploser en 30 ans. En fait, quand il y a un glacier qui fond, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, l'eau qui devient liquide contribue à l'augmentation du niveau de la mer. Ça, on le sait, on l'entend souvent parler. Mais dans les glaciers qui se trouvent en montagne, l'eau, elle va suivre un petit peu la géologie du terrain et donc elle se charge en morceaux de glace, en débris rocheux et elle va former un lac glaciaire. Et il y a donc eu des observations. On s'est rendu compte qu'entre les années 90 et la fin des années 2010, donc on est dans à peu près un espace de 30 ans, eh bien on s'est rendu compte que le nombre de ces lacs glaciaires avait augmenté de plus de 50%. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'analyse de plus de 250 000 images prises par le satellite Landsat, le premier programme spatial civil d'observation de la Terre, dont le dernier satellite a rejoint l'espace en 2013. Et grâce aux données de Landsat et d'un modèle informatique, eh bien, les scientifiques à l'origine de ce travail ont pu quantifier le nombre de lacs glaciaires à travers le monde, mais aussi dans quelle proportion ces derniers ont augmenté de taille et de volume. Et donc, cette étude, notamment menée par la NASA, a révélé une augmentation importante de ces lacs. Alors, il y a deux choses. Soit le lac grandit en termes de surface, soit il grandit en termes de profondeur. Alors, si on prend des photos, on va plutôt constater les lacs qui vont grandir d'une façon en termes de surface. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'eau. On ne constate pas encore nécessairement ceux qui sont en profondeur. Mais on a quand même des images assez éloquentes qui concernent l'Alaska, le Canada, la Scandinavie, le Groenland et en Islande et en Russie. C'est là où on a constaté que les lacs grandissent le plus vite. En tout cas, c'est ce qu'on a repéré. Et par exemple, en Russie, des lacs ont vu leur volume augmenter de 152%. C'est quand même pas rien. C'est donc un petit peu cette révélation qui confirme, une fois plus, il fallait encore pour évoquer et illustrer le réchauffement climatique. C'est encore un aspect nouveau qui permet d'avoir une preuve, s'il en fallait, supplémentaire de ce réchauffement climatique. Mais voilà, c'était ces deux articles que je voulais évoquer avec vous la semaine dernière. Et comme promis, on les évoque aujourd'hui dans cette émission de Biotine. Vous nous écoutez sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur le 94.9 sur la bande FM. Nous sommes samedi et nous sommes aussi rediffusés mardi matin. Donc ne soyez pas surpris si vous nous écoutez le mardi matin, 10h je crois, entre 10h et 11h. On écoute Cannibal, tiens, sur l'antenne de Graphite. Et puis, on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et technologique. À tout de suite.
So much that when you hurt me, it's better not to be faint of heart. When on my skin, to avoid the pain, your fingers snack, I struggle not.
I am a crush. From what I can see, you too much. Come close enough. I crush so much. Deep into my love me so much that when you hug me, it's better not to be faint of heart. When on my skin, to avoid the pain, your fingers neck, I struggle not.
Don't love me too much. C'est Cannibal sur l'antenne de Graphite. Je suis franchement mauvais en anglais, mais c'est une catastrophe. Mon Dieu. Don't love me too much. C'est quand même pas compliqué à dire, de Cannibal sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. C'est très gentil à vous. Merci de votre indulgence et de votre fidélité sur le graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur la bande FM 94.9, bien évidemment. On va parler... En plus, j'adore cette question qui apparaît sur le site Futura Science. La domestication a fait rétrécir le cerveau des poules. Alors déjà, quand on a un article comme ça, on se dit, mais de quoi on parle? On parle des poulets d'élevage qui sont deux fois plus gros qu'à la fin des années 70 et quatre fois plus gros qu'à la fin des années 50 selon une étude de l'université d'Alberta. De plus, les poulets mangent deux fois moins pour atteindre ces tailles et le volume de leur poitrine dense en chair a augmenté de 80%. Et non, rien de tout cela n'est dû à l'ajout d'hormones et de stéroïdes. Non, 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 c'est simplement le fait, le résultat d'une sélection génétique minutieuse. Sauf que cette sélection a aussi abouti à faire rétrécir le cerveau de ces gallinacés dans le but de les rendre moins créatifs face aux humains. C'est ce que révèle une étude parue dans la revue Royal Society Open Science. Le poulet a été domestiqué il y a environ 10 000 ans, donc c'est quand même pas récent. Et comme tous les oiseaux, comme tous les oiseaux, c'était alors un animal sauvage très peureux. Et pour faciliter leur élevage, les individus les moins craintifs et les plus faciles à apprivoiser ont été privilégiés, ce qui a modifié leur cerveau. Et pour vérifier cette assertion, eh bien, les chercheurs sont partis du coq doré, qui s'appelle le Gallus gallus, une espèce du sud-est asiatique considérée comme l'ancêtre sauvage des poules domestiques. Ils ont sélectionné les oiseaux qui se montraient les moins effarouchés devant les humains dans un test standard, puis les ont fait se reproduire sur 10 génération. Les oiseaux qui montraient la plus grande peur de l'homme ont été placés dans un second groupe. Résultat, on s'est rendu compte que les cerveaux des oiseaux du premier groupe est progressivement devenu plus petit par rapport à la taille du corps, le changement étant particulièrement marqué au niveau du tronc cérébral, la partie primitive du cerveau impliquée entre autres dans certaines réactions au stress. Les chercheurs, ils ont ensuite mené des tests comportementaux afin de déterminer si la différence de taille et de configuration du cerveau affectait la capacité d'apprentissage de l'oiseau. L'un des tests portait notamment sur la façon dont les oiseaux s'habituent à une situation effrayante, mais non dangereuse, en l'occurrence un feu clignotant. Eh bien, les oiseaux apprivoisés se sont habitués et ont cessé de réagir face à ce feu clignotant beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'explique Rebecca Katajama, qui est doctorante au département de physique, de chimie et de biologie de l'université de Linköping et qui est l'auteur principal de cette étude. Alors, la question, c'est que si on se dit que ça fait rétrécir le cerveau des poules, on pourrait se demander si les poules, elles sont pour autant devenues stupides. Eh bien, pas du tout. Il y a eu un autre test qui a été effectué qui porte sur l'apprentissage associatif, c'est-à-dire la capacité à associer deux choses entre elles, comme par exemple un dessin de la nourriture. Et donc, ce test qui a été effectué n'a révélé aucune différence entre les deux groupes de poulets. Je rappelle les deux groupes, il y en a un qui est craintif et l'autre qui l'est beaucoup moins. Et il semblerait donc que nos poules s'habituent simplement mieux au stress que leurs ancêtres sauvages. Alors, il n'en reste pas moins que la poule reste un animal très sensible au stress et que ce dernier a des effets délétères sur sa santé et sur sa productivité. Les chercheurs continuent donc leurs recherches pour les rendre encore moins craintives. Il y a une entreprise qui s'appelle Hendrix Genetics qui s'est ainsi associée à l'université de Newcastle dans un consortium pour essayer de comprendre la réponse au stress dans le cerveau et pour minimiser le stress chronique à travers la sélection génétique et l'amélioration de l'environnement des animaux. Et il y a eu également un laboratoire qui a développé une solution anti-stress à base de phéromones qui diffuse un message apaisant et rassurant pour les poussins, nous dit-on. Bref, dormez en paix mes petits poulets, on s'occupe de vous. Mais c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que la domestication a fait rétrécir le cerveau des poules, mais c'est pas pour cela qu'elles sont plus stupides. Et en tout cas, elles sont moins stressées et moins paniquées. On en comprend, là encore, tous les bénéfices. Vous savez, derrière, je vous le dis assez souvent dans cette émission, il y a la science, il y a la recherche, il y a aussi de la compréhension des phénomènes scientifiques qui sont mis en jeu. Et puis après, derrière, il y a aussi une question de productivité. Ben oui, il ne faut pas non plus être naïf, bien évidemment. Autre chose, on va retourner dans l'espace pour évoquer ces astronomes de l'université d'Hawaï aux États-Unis qui viennent de trouver des quantités d'hématite sur la Lune à des latitudes élevées. C'est une surprise parce que alors l'hématite, c'est une formule chimique Fe2O3. Donc Fe du fer, O3 de l'oxygène, c'est un minéral donc hautement oxydé. Or, la surface de la Lune est réputée quasi dépourvue d'oxygène. Donc, cette découverte est un peu une surprise. C'est un peu bizarre. En clair, on découvre qu'il y a de la rouille sur la Lune. Alors, Schweili, qui est chercheur à l'Université d'Hawaï, explique dans un communiqué: notre hypothèse est que cette hématite s'est formée par oxydation du fer lunaire par l'oxygène de la Terre. Ah tiens, c'est étonnant. Alors pendant la pleine lune, la lune justement, elle est protégée des vents solaires par ce qu'on appelle la queue magnétique de la Terre et du même coup une espèce de vent d'hydrogène qui empêche toute oxydation. Et donc à ce moment-là, il y a de faibles quantités d'oxygène de la haute atmosphère terrestre qui peuvent être soufflé vers la Lune et ça pourrait créer des espèces de conditions favorables pour pouvoir oxyder ce fer et donc former la fameuse hématite. Et c'est en analysant les données de réflectance donc de ce phénomène qui a été organisé à l'occasion de la mission indienne Chandrayaan-1 que des chercheurs ont découvert cette hématite. Et ils ont aussi montré que la présence de l'hématite sur la Lune était corrélée à la présence de glace d'eau qui joue également ce rôle qui va permettre aussi d'oxyder parce que dans l'eau il y a aussi de l'oxygène. Et donc du coup on se dit que finalement on n'avait pas au départ considéré qu'il y aurait de la rouille sur la Lune, mais on pourrait essayer de comprendre que finalement ça pourrait être possible c'est quand même assez un exploit quelque part, parce que ça mettait en fait des conditions et des un peu improbables. Il n'empêche que ces travaux ont été diffusés, communiqués assez récemment et vont permettre justement de se dire que la Terre a pu jouer un rôle important dans l'évolution de la surface de la Lune. C'est intéressant parce que quelque part on se rend compte de l'interaction directe entre la Terre et la Lune et les chercheurs espèrent en apprendre plus grâce au programme Artemis qui est planifié par la NASA et ces signatures chimiques de l'hématite qui sont ramenées par les missions de ce programme pourraient confirmer cette hypothèse. Je vous rappelle qu'on va partir sur la Lune, on va faire pas mal de choses et donc on a prévu également de récupérer cette hématite, essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'origine de cette production de rouille sur la surface de la Lune. On n'aurait pas pensé parler de rouille à la surface de la Lune, mais que voulez-vous, tout arrive, même sur l'antenne de Graphite. On écoute un dernier titre avant de se dire au revoir sur l'antenne de Graphite, tout de suite.
Qui se dentille, tout est
Constance Verluca avec longtemps sur l'antenne de Graphite. On va se quitter avec cette dernière information qui a été diffusée sur plusieurs supports. Il y a quand même pas mal de sites internet qui vous permettent d'être au courant de l'actualité scientifique. Là, je crois que c'est sur le site de Futura Science qui nous parle de la possibilité d'une méthode qui pourrait donc permettre aux médecins de détecter le diabète de type 2 chez leurs patients. Tout simplement avec une poignée de main. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le dit 33, maintenant ça serait serré moi la main. Il y a une récente étude qui a été menée sur près de 800 personnes, hommes et femmes, c'est en Finlande, et cette étude suggère que la force de la poignée de main serait directement corrélée au risque de contracter le diabète de type 2. Les résultats indiquent que la probabilité d'être atteint de la maladie pourrait décroître de 50% à chaque unité de force supplémentaire. Ça veut dire que, en fait, grâce à cette nouvelle méthode de détection, les chercheurs espèrent pouvoir faciliter l'accès à un dépistage systématique et efficace. Le diabète est l'une des principales causes de mortalité. Elle touche plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde et parmi elles, 90% sont atteintes de diabète de type 2, caractérisé par une faible production d'insuline, et par l'augmentation résultant du taux de glucose dans le sang. Alors, contrairement au diabète de type 1, celui de type 2 est plus facile à détecter à cause de l'apparition progressive de ses symptômes. Les patients sont généralement soumis à un test sanguin permettant de mesurer la glycémie. Cependant, cet examen représente un coût supplémentaire pour le système de santé et il n'est pas réalisé régulièrement chez les individus qui ne sont pas, des symptômes qui pourraient permettre de se dire tiens, il y a peut-être un risque de diabète. Donc du coup, on voudrait essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus facile à déployer comme dépistage. L'affaiblissement musculaire, ça pourrait justement devenir une alternative de choix dans le dépistage systématique du diabète de type 2, fortement associé à des troubles cardiovasculaires et à une longévité réduite. Eh bien, il a quand même néanmoins fait l'objet de résultats controversés dans le cadre de son association avec le diabète. Mais il y a une autre étude qui a été menée sur une période de 20 ans qui offre de nouvelles données un petit peu plus concluantes et intéressantes. Cette étude a permis en fait à des patients de les soumettre à des tests de force. Sur cette durée de 20 ans, on a un petit peu réparti à peu près tous les 5-6 ans ces tests et on faisait avec ce qu'on appelle un dynamomètre de main. En fait, c'était un appareil qui permettait de mesurer un petit peu la force physique de la main. Et les résultats, ils ont ensuite été, un peu normalisés. On a pris en considération la taille, le poids. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Avec l'idée de pouvoir révéler, et c'est ce qui a été le cas, une forte corrélation entre le risque de diabète d'un côté et la force musculaire de l'autre. Cette corrélation en vient même à dépasser l'effet de certains facteurs connus pour faciliter l'apparition du diabète. L'âge, antécédents familiaux, la consommation de tabac, l'hypertension, l'activité physique, le taux de glycémie à jeun et ainsi de suite. Et ces résultats peuvent avoir des implications dans le développement des stratégies de prévention du diabète de type 2. C'est ce qu'explique Setor Knutsor, qui est le principal auteur de cette étude. Une étude qui est parue dans la revue Annals of Medicine. La mesure de la poignée de main est simple, elle n'est pas coûteuse, tu m'étonnes. Elle ne requiert pas d'expertise ou de ressources particulières. Elle pourrait aussi être potentiellement utilisée dans l'identification précoce des individus qui présentent un haut risque de développer du diabète de type 2. Donc, c'est une piste intéressante. Alors, bien évidemment, il y a énormément d'études supplémentaires qui doivent être mises en place, parce qu'on ne peut pas du tout s'arrêter sur cette étude-là, même si elle est intéressante et même si elle donne quelques pistes qu'il va falloir un petit peu approfondir. Mais, en tout cas, c'est une idée intéressante pour détecter le diabète de type 2 avec une simple poignée de main. Voilà, c'était cette dernière information que je souhaitais développer avec vous dans cette émission de Biotech sur l'antenne de Graphite. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain, je l'espère, sur l'antenne de Graphite. On va continuer à feuilleter la revue presse, l'actualité scientifique et technique. Alors, il y a des articles que je n'ai pas eu le temps d'évoquer encore aujourd'hui parce que je suis énormément bavard, ou alors l'émission est très courte, elle dure pourtant une heure, mais on continuera bien sûr tout cela samedi prochain à 12h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon samedi, une bonne semaine. À samedi prochain, 12h, je compte sur vous. À bientôt, au revoir.